I love when I hear that a bitch don't like me. Stalk my IG, this pretty face on her FYP. Been done with it, but a bitch still type in. Keep going, cause that shit hype me. Hanging with ops, you a chop. Do your thing, but that ain't how I rock. You hoes don't appreciate loyalty. I don't act funny, bitch, I act accordingly.
It's whatever, oh, it's whenever, bitch.
What's up?
It's whatever, oh, it's whenever, bitch. It's whatever, oh,
Soul Radio sur génération.fr. Génération.
Wow, 13h pile, 13h précise, 13h pétante, vous êtes dans l'arme automatique time. Impardonnable de Damso, c'est quand? Tout de suite sur Génération.
Génération. Hip Hop Soul Radio.
هي الواحدة تماما بتوقيت الفرنسي.
ليال بشارة.
نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. في اليوم الخامس من التصعيد الإسرائيلي الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن رضوخ إيران الكامل ينهي النزاع. إيران تتباعد إسرائيل بهجمات تصعيدية في الساعات القادمة بعد أن اغتال تل أبيب علي شدماني أرفع مسؤول عسكري إيراني، والصين تحث رعاياها على مغادرة إيران سريعا. في النشرة 50 قتيلا على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية قرب مركز توزيع مساعدات في قطاع غزة، 15 قتيلا في هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية وجوارها ليلا، وكييف تصفه بالهجوم المروع. أهلا بكم. تزايدت الضغوط الأمريكية على إيران في اليوم الخامس من التصعيد الإسرائيلي الإيراني، إذ حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤية بلاده لوقف التصعيد بين الدولتين، ومن أهمها رضوخ إيران الكامل. وحذر طهران من مخبة استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة بعد أن غادر قمة مجموعة السبع ليلا على عجل. ونقلت صحيفة الوول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي فوض نائبه جاي ديفنس وكبير المفاوضين ستيف ويتكوف التواصل مع إيران مجددا. البداية من آخر الجهود الأمريكية لاستئناف المفاوضات مجددا. ومجمل ردود الفعل الغربية معك على الدين بنشار.
قبل مغادرته قمة مجموعة السبع، أعطى دونالد ترامب موافقته على بيان مشترك قضى بدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويعارض امتلاك إيران السلاح النووي، ويؤكد أن النظام الإيراني هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة. توجه واضح من الدول الغربية لمساندة إسرائيل وإدانة إيران. الرئيس الأمريكي نفى ما نقله الرئيس الفرنسي من أنه غادر قمة السبع للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وأعرب عن رفضه مقترحا من هذا القبيل. وقال ترامب أن رغبته هي في نهاية حرب وتخلي طهران عن برنامجها النووي. إلقاء اللوم على إيران بدأ واضحا من كلام الرئيس الأمريكي، حيث أكد أن الإسرائيليين لن يخففوا حدة الهجمات على الجمهورية الإسلامية، وتمنى أن يتم القضاء على البرنامج النووي الإيراني دون تدخل أمريكي. ترامب أطلق تصريحات غير مفهومة بدعوته سكان طهران الذين يبلغ عددهم 14 مليونا، دعوتهم بإخلاء المدينة فورا، وأسف أن نظام إيران لم يوقع الاتفاق النووي في وقت سابق. كلام بدا كتحذير أخير يقدمه الرئيس الأمريكي للإيرانيين، حيث يعقد اجتماعا أمنيا في البيت الأبيض، وقد يرسل نائبه جي ديفنس أو مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف للتفاوض مع الإيرانيين. تفاوض حسب المراقبين هو للاستسلام والإذعان الفوري من الإيرانيين والتخلي فورا عن البرنامج النووي، وإلا فإن حرب تل أبيب ستتواصل وقد تشارك فيها واشنطن.
وفي آخر ردود الفعل، الصين حثت رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن عبر المعابر الأسرار البرية. وقال الكرملين إنه لا يرى حاليا رغبة من جانب إسرائيل في الانتقال إلى الوساطة أو البحث عن مسار تفاوضي يقود إلى تسوية. فيما حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة له اليوم أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ من أن هجمات إسرائيل على إيران وسعت نطاق صراعاتها في المنطقة إلى مستوى يشكل تهديدا عالميا. مع هذه الأجواء دعت 20 دولة عربية وإسلامية بينها قطر والبحرين إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة من السلاح النووي. فما مدى نجاح هذه الدعوة؟ عن ذلك أجابنا المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي.
في جهود تبذل منذ اليوم الأول، والاتصالات الهاتفية اللي أجراها ولي العهد بالرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الفرنسي كانت تؤكد في هذا المنوال تصب في هذا الاتجاه، وجهود خليجية انضمت لها خلال المؤتمر الوزاري يوم أمس ثم البيان الذي صدر. بكل تأكيد الجميع معني بسرعة وقف هذه الحرب الخطيرة جدا، لكن بكل أسف من المبكر جدا أن تبحث تهدئة أو وساطات نظرا لأن كلا طرفين تل أبيب وطهران تريدان حتى الآن أن يتضح الميزان يميل لأيهما، بمعنى أن يتم تثبيت تغير الوزن الاستراتيجي الذي يحدث في المنطقة. وأعتقد أن لن تبدأ عملية التهدئة أو الوساطات قبل أسبوع أو أسبوعين نظرا لأن العسكر حتى الآن يعتقد أنهم لم ينفذوا كامل خططهم. شخصيا كمراقب أعتقد أن مسألة الوساطة تحتاج مزيد من الوقت ليقتنع الطرفان في طهران وفي تل أبيب بأنه قد حان التفاوض.
وفي ردود الفعل الدولية حض وزراء خارجيات فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم إيران على العودة بأسرع ما يمكن وبدون شروط مسبقة إلى طاولة المفاوضات حول برنامج إيران النووي. واتهمت الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصب الزيت على النار في النزاع المتصاعد بين الدولتين. وقالت السفارة الأمريكية في القدس إنه سيتم إغلاق مقر السفارة اليوم الثلاثاء في البلاد. في وقت أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا كانت إيران تريد الحديثة فهم يعلمون كيف يتواصلون مع الإدارة الأمريكية، وذلك بعد أن ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن البيت الأبيض يناقش مع إيران إمكانية عقد اجتماع هذا الأسبوع بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. التفاوض متى يمكن أن يبدأ وفق أي شروط قد تنطلق مجددا؟ عن هذا أجابنا الدكتور عامر السبيلة الخبير في شؤون الاستراتيجية، نستمع إليها.
الولايات المتحدة بلا شك الرئيس ترامب إلى الآن يستثمر ما يجري. أولا فكرة مباركة أن ما تقوم به إسرائيل هو معجب به، ثانيا أنه قدم السلاح لإسرائيل وهي تعرف كيفية استخدامه، وبالتالي التحذير الأخير للإيرانيين، واليوم تقريع الإيرانيين أن كان عليهم أن يقبلوا الاتفاق حتى لا يصلوا إلى هذه النقطة، مع ترك الباب مواربا بشكل بسيط جدا لفكرة الجلوس على الطاولة وفقا للشروط الأمريكية، وإلا التعامل مع سيناريو التصعيد. سيناريو التصعيد بلا شك قد يشمل الولايات المتحدة، لكن في حال الحسم، أي بمعنى آخر إن دخلت الولايات المتحدة فهي تدخل من أجل الحسم، وإن دخلت الولايات المتحدة من أجل الحسم هذا يعني أن إسرائيل قد تكون أدت الدور الأكبر في تدمير بنية النظام الإيراني من الداخل، وبالتالي الوصول إلى المرحلة الأخطر وهي كيفية التعامل مع النووي الإيراني.
هذا ميدانيا عرفت الغارات الإسرائيلية على إيران في الساعات الماضية تصعيدا بينها اغتيال مسؤول عسكري كبير. مجمل هذه التطورات معك فايزة مصطفى.
لحد الآن لم تؤكد إيران رسميا مقتل علي شادماني رئيس أركان الحرب الجديد في الجمهورية الإسلامية والمرشد الأعلى علي خمينائي، ويتولى قيادة خاتم الأنبياء للطوارئ المسؤولة عن إدارة المعارك وخطط إطلاق النار. وكانت أو كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن تصفية الشادماني. أما مستشار قائد الحرس الثوري العميد أحمد وحيدي فكذب ما تنقله الجانب الإسرائيلي عن تدمير الترسانة الصاروخية لبلاده. فغضون ذلك أكد مسؤول شؤون الأمنية في محافظة لارستان عن رصد وتدمير 3 مسيرات إسرائيلية بنجاح في المحافظة، معلنا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر استهداف نقطة تفتيش في مدينة كاشان إيران بمقذوف إسرائيلي. وسائل الإعلام إيرانية تحدثت عن إطلاق مسيرة إسرائيلية 4 صواريخ على المنطقة الصناعية في تبريز شمال غرب إيران صباح اليوم. وفي الحرب الإلكترونية التي ترافق القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض مصرف سبه، وهو أحد البنوك العامة والرئيسية في البلد، لهجوم إلكتروني ما أحدث خللا في الخدمات. وفيما نقل صحيفة غارديان البريطانية عن العاملين في المستشفيات الإيرانية قولهم إن المرافق الطبية غارقة في الدماء، وإن عدد القتلى أعلى مما أبلغ عنها. تم إلغاء إجازات الأطباء والممرضين الإيرانيين حتى يلتحقون بشكل دائم بالمراكز الصحية.
وقبل قليل أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تل أبيب لا تريد أن تتسبب ضرباتها على إيران بكارثة نووية، ولن تنفذ بعد إسرائيل أي عملية في فوردو، لكن هذا لا يعني أنها لن تفعل ذلك، وفقا لمسؤول عسكري إسرائيلي. ووصلت إيران إطلاق الصواريخ على غير العادة صباح اليوم، الصواريخ والمسيرات على تل أبيب وحيفا، مشمولة أيضا بتصريحات إسرائيلية تصعيدية ضد المرشد الإيراني علي خامنئي. المزيد عنها من مدينة القدس مع مراسلنا زياد حلبي.
خلافا للعادة حيث تكون الدفعات الصاروخ.
Après 24 semaines, enfin une vaste opération lancée à l'échelle européenne a permis ce matin le démantèlement d'une importante plateforme de vente de drogue sur le darknet, l'internet clandestin. Un des administrateurs est originaire d'Allemagne où le site réalisait l'essentiel de ses affaires. Il a été arrêté à Barcelone en Espagne. Vous écoutez RFI 13h11 ici à Paris, la suite d'RFI Midi avec Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau, à tout à l'heure.
RFI, la France à midi.
Pas d'avancée, pas de progrès. Les syndicats parlent retraite avec le patronat français. Pour l'instant, personne ne bouge. Ce mardi est pourtant censé être le dernier jour de ce rendez-vous voulu par le Premier ministre. Mais François Bayrou a indiqué hier qu'il pourrait y avoir un délai supplémentaire, le temps de se mettre d'accord. Bonjour Agnieszka Kumor.
Bonjour.
Le Premier ministre a aussi fait une nouvelle proposition lors de sa visite au salon aéronautique du Bourget.
L'idée que un salarié qui aurait atteint ses droits à la retraite, s'il décide de rester au travail, on peut lui verser une partie de sa retraite en plus de son salaire. Cette idée-là, qui est un encouragement à l'activité et qui est de nature à faire changer le pourcentage des personnes restant au travail. Je suis persuadé que tout le monde a à y gagner. Il y a une prime et il y a en même temps des économies puisqu'on ne verse pas la retraite.
Une prime pour les salariés les plus âgés qui décideraient de rester au travail. Ils n'en avaient jamais parlé avant, Agnieszka, et ça a pris de court les syndicats.
Oui, en effet, ils auraient découvert cette proposition dans la presse. En tout cas, pour les syndicats, pas question de proroger la fin du conclave. Le défi est de taille. Trouver un terrain d'entente pour rendre moins impopulaire la réforme de 2023 et assurer l'équilibre financier du système des retraites.
Les syndicats qui ont réclamé longtemps un retour en arrière sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Devant le refus du MEDEF, donc du patronat, ils ont lâché du lest. Il y a eu quelques avancées, mais il reste encore beaucoup de points de blocage.
C'est notamment la question de la décote. Il s'agit de cette pénalité qui minore la retraite versée aux personnes qui arrêtent de travailler sans avoir cotisé un an de trimestre. Actuellement, il faut avoir travaillé 172 trimestres, soit 43 ans ou jusqu'à 67 ans pour éviter la décote. Les syndicats souhaitent ramener cette limite à 66 ans. Cette mesure coûterait 1,2 milliard d'euros en 2030 et bénéficierait notamment aux femmes dont les carrières sont souvent hachées. Pour la CFTC, c'est une ligne rouge, mais les organisations patronales ne veulent pas en entendre parler pour l'instant.
Et d'autres sujets ont été mis sur la table des négociations, comme par exemple la pénibilité.
Il n'y aura pas d'accord avec la CFDT si le patronat n'avance plus sur la question de la pénibilité, a mis en garde il y a quelques jours Marie-Lise Léon, numéro 1 de cette organisation. Pour le moment, le président du MEDEF, Patrick Martin, préfère axer son effort sur la prévention plutôt que sur la réparation. Il propose aussi de modifier le dispositif de l'inaptitude, invalidité, et qui concerne aujourd'hui près d'une personne personnes sur 7 en abaissant pour ses salariés l'âge de départ de 62 à 61 ans.
Reste un sujet, c'est l'équilibre financier du système lui-même des retraites.
Si les syndicats ne rejettent pas l'idée de faire contribuer les retraités, les organisations patronales refusent d'augmenter les cotisations salariales et patronales. Là aussi, trouver un accord est essentiel. Si rien ne bouge, le déficit du système des retraites atteindra 6,6 milliards d'euros en 2030.
Agnieszka Kumor.
RFI. La France à midi.
Le sort des harkis n'en finit pas de travailler les descendants de ces rapatriés d'Algérie. Ces musulmans engagés aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'indépendance, puis contraints à l'exil face aux menaces qui pesaient sur eux après le départ des colonisateurs français. Environ 90 000 s'étaient alors réfugiés en France. Plutôt mal accueillis, parqués dans des camps comme celui de Rivesaltes dans le sud, qui fait de nouveau l'actualité, car des familles ont découvert récemment que les tombes de leurs proches, morts pendant leur passage dans le camp, étaient vides. 5 familles ont porté plainte contre la mairie, qui a reconnu avoir déplacé des sépultures en 1986, donc plus de 20 ans après les décès, et sans rien dire aux familles. Reportage à Rambeng.
Entre l'été 1962 à l'automne 1964, le camp enregistre plus de 140 décès, essentiellement des bébés de moins de 2 ans et des personnes âgées.
Neima Jiménez lit la légende d'une des photos exposées au mémorial du camp des Rivesaltes. Cette fille d'Arki fait partie du collectif qui a déposé une plainte contre X après avoir appris que les tombes du camp Joffre ont été déplacées à l'insu des familles.
Parce que ça a été fait un petit peu à la va-vite, sans nous demander surtout l'accord à nos parents. Aucun courrier qui reflète quoi que ce soit sur cette histoire. J'ai tout su en 2019, quand il y a eu l'inauguration de la stèle de ces enfants décédés au camp de Joffre.
Nicole Gougache fait partie, elle aussi, des plaignants. Devant une photo montrant des tentes dans lesquelles ont vécu des harkis, elle évoque la mort de sa grande sœur Aziza.
On se demande combien de familles il y avait dans ces tentes. En tout cas, ça me rappelle que ma maman a accouché dans le camp des Rivesaltes et l'enfant, qui avait quelques jours, a vécu dans ses tentes. Et ses tentes, très 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 mal, carrément, la neige passait à travers. Et ma sœur est décédée dans le camp en mars 63.
Et quand Nicole Gougache apprend que les restes de sa sœur ne sont plus dans le camp des Rivesaltes depuis 1986, elle et sa famille se sont sentis trahis.
Encore une fois, on nous cache les choses. On est quand même en 1986, on n'est pas en 1963. Je dis bien 1986. On pouvait nous informer, puisque le registre des naissances est bien à la mairie de Rivesaltes avec les décès. Donc, notre livre de famille est bien écrit Aziza, née le 27 mars, décédée le 29 mars 63. Donc, on pouvait nous informer. Pourquoi cela n'a pas été fait ? Et qui est à l'origine de tout cela ?
Pour avoir des réponses, 5 familles ont déposé plainte. Maître Antoine Horry du barreau de Paris est leur avocat.
Effectivement, elles considèrent que les réponses qui leur sont apportées ne sont pas satisfaisantes. Elles ont besoin de comprendre pourquoi tout ça a été fait dans ces conditions. Je rappelle quand même que cet épisode assez regrettable et même macabre a été découvert de manière fortuite. Il se pose la question de pour quelles raisons tout ça a été fait dans leur dos et pourquoi ils ont appris cet épisode fortuitement.
En attendant une réponse de la justice, les milliers d'ossements des harkis restants et retrouvés dans des cartons au cimetière de Rivesaltes sont en cours d'analyse à Marseille. André Bascou, maire de Rivesaltes, qui avait signé à l'époque les documents du transfert des tombes, est toujours en poste. Sollicité par RFI, il n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet.
Reportage signé Arambeng.
RFI Midi.
Comme chaque jour, notre entretien politique. Véronique Rigolet, vous recevez aujourd'hui le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, président de la Commission des Finances de l'Assemblée.
Bonjour Éric Coquerel.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI, sur tous les fronts de l'actualité avec la fin du conclave annoncé sur les retraites aujourd'hui en France. On va y revenir. Mais pour commencer, bien sûr, un mot sur la dangereuse escalade au Proche-Orient au cinquième jour des affrontements entre Israël et l'Iran et avec la volonté désormais affichée du gouvernement israélien, au-delà de la question sur le nucléaire, de faire chuter le régime des Mollahs, de tuer même l'ayatollah Khamenei, a dit Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous inspire, Éric Coquerel, cette volonté de changer par la force le régime iranien ? Est-ce que vous partagez les réserves du président Macron qui parle d'une véritable erreur stratégique ?
Bah, je partage ses réserves, mais j'aurais préféré que Emmanuel Macron, dès les premiers tirs sur l'Iran, n'explique pas que la France serait peut-être prête à se ranger du côté d'Israël et explique qu'Israël avait le droit de se défendre. Parce qu'on voit bien que là, il s'agit d'une escalade qui est provoquée par Israël avec des prétextes. Tout le monde sait que l'Iran n'est pas en capacité d'avoir une arme nucléaire avant 3-4 ans environ, donc il n'y avait pas d'urgence, alors même que les rounds d'observation, de négociation avec les Américains devaient s'ouvrir cette semaine. Et donc, on a une situation où, après le Liban, après la Syrie, en même temps que le génocide à Gaza, Israël est fauteur de guerre dans une région et risque de mettre vraiment le feu aux poudres. C'est pas à Israël de décider, alors que je vous rappelle que Israël est pourvu de l'arme nucléaire contre tout accord international, n'a pas signé les signatures de non-prolifération, et en plus de décider maintenant d'aller éliminer la direction d'un pays... d'un pays voisin. Enfin, tout ça est alors, contraire totalement.
Et donc, elle s'accroche à cette proposition. Elle vient en France. Et donc, elle est effectivement hébergée dans cette maison. Et progressivement, au fur et à mesure que la grossesse avance, les choses commencent un peu à se détériorer dans leur relation. D'abord, ils lui ont retiré son passeport. Dès lors qu'elle est arrivée, on lui retire son passeport. Ensuite, quand elle regarde son téléphone, quand elle communique avec quelqu'un, on regarde par-dessus son épaule. Mais à qui communique ? Avec qui communique-t-elle et quoi ? L'enfant naît, et là, on l'empêche de prendre l'enfant dans ses bras. Il y a toujours la belle-mère du couple qui est là. Dès qu'elle se penche vers l'enfant, on l'empêche de le prendre dans ses bras, on la devance. Et puis aussi, on l'oblige, en fait, on lui demande instamment de tirer son lait, de ne pas l'allaiter. Tout ça commence à l'interpeller. Mais elle est seule, elle ne connaît personne, elle ne parle pas la langue. Que peut-elle faire ? Et voilà, 3 semaines après, elle est encore en dépression, un peu en dépression post...
post-maternité.
Oui,
ouais. Pardon, on voit les femmes qui n'ont pas fait d'enfants, elles ne connaissent pas ce genre de mots.
Postpartum. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà que ce couple organise pour elle, elle ne l'a pas demandé, organise un déplacement, il l'envoie par Blablacar en Espagne, à Murcia. Parce qu'elle connaît plus ou moins quelqu'un, elle connaîtrait plus ou moins quelqu'un là-bas. Donc elle arrive à Murcia, 5 étapes pour arriver jusqu'à Murcia, par Blablacar, elle arrive là-bas, elle rencontre la personne... qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît pas vraiment, qui tout de suite l'emmène chez une avocate et qui lui dit, et l'avocate lui dit, mais madame, ce que vous venez de faire en quittant le domicile que vous habitiez là-bas, c'est un abandon d'enfant. Elle ne veut qu'une chose, c'est retourner en France, retrouver son enfant. Elle appelle immédiatement les deux gays en disant, mais c'est pas possible, vous m'avez envoyé en Espagne, mais c'est grave parce que je vais être accusée d'abandon d'enfant. Elle va apprendre ultérieurement que les deux gays sont immédiatement allés à la police et ont déposé une plainte pour abandon d'enfant. Voilà. Ensuite, tout va un peu s'empirer. Elle va avoir la chance de rencontrer... On va la mettre en relation avec une avocate française qui dit « Vous devez rentrer... » qui parle espagnol et qui connaît le milieu argentin, qui va s'occuper d'elle, pro bono, qui va lui trouver un travail, qui va la faire revenir à Paris, parce que ce n'est qu'à partir de Paris qu'elle peut intenter une action, puisque c'est là qu'habite son enfant, qu'en France, pardon, qu'elle peut intenter une action en justice pour récupérer ses droits de parentalité. Et depuis, elle se bat pour récupérer les droits de son enfant. Et c'est ce que dit l'article. Aujourd'hui, elle n'a droit qu'à 1 heure de visite tous les 15 jours de cet enfant. Alors, je vais un petit peu plus loin, mais ce traitement qui était infligé à Alejandra, c'est quelque chose qui s'appelle la traite humaine. Alors, la traite humaine, ça fonctionne sur 3 critères. Une action... un moyen et puis un objectif. Alors l'action, elle a été recrutée. Elle a été amenée en France, on lui a retiré son passeport. Elle a été recrutée et on a obtenu son accord pour venir en France sur de la tromperie, puisqu'on lui a promis des papiers, on lui a promis un travail, on lui a promis une coparentalité qui était totalement fictive. Et puis l'objectif, c'est vraiment le 3e point, c'est l'exploitation de sa capacité reproductive. Et je dois dire aussi que le cas d'Alejandra n'est pas exceptionnel, mais toutes les GPA relèvent de la traite humaine. En se référant au protocole de Palerme, c'est un crime de traite humaine, la GPA remplit en effet ces trois critères que je viens d'énoncer. Les mères porteuses sont bien recrutées, c'est pas elles qui vont se positionner pour aller faire proposer à n'importe qui de faire un enfant pour eux. Elles sont enrôlées dans cette pratique par tromperie. Alors on les trompe. En quoi les trompe-t-elles? Systématiquement, on les convainc qu'elles ne sont pas la mère de l'enfant, ce qui est fictif. Elles sont bien la mère de l'enfant, c'est elles qui ont accouché quand même, c'est une réalité. Et puis on les convainc que l'enfant n'est pas vendu. Or, qui accepterait, parce que qui accepterait bien sûr de vendre son enfant, si on lui proposait de vendre son enfant, bien sûr qu'aucune mère porteuse n'accepterait de le vendre. Et enfin, la finalité de ces contrats, c'est bien l'exploitation de leur capacité reproductive. Et puis, pourquoi en matière de GPA dit-on que l'enfant est vendu? Alors, il y a des instruments internationaux qui définissent très bien la vente d'enfants. Alors, il s'agit de tout acte ou toute transaction en vertu desquelles un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou à un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. Et pour distinguer l'adoption et la vente d'enfants, il y a un texte très très clair qui est la convention de 1993 sur l'adoption internationale qui précise bien, qui stipule que le consentement des parents et en particulier le consentement de la mère qui a donné la naissance à l'enfant, ce consentement doit être recueilli après la naissance de l'enfant. Et quand on affecte, comme c'est le cas dans la GPA, quand on recueille le consentement de la future mère, de la mère porteuse, future mère de l'enfant, eh bien, on le recueille avant même la conception. Et donc ça marque clairement le fait que toutes les GPA sont des ventes d'enfants. Voilà.
Alors, j'ai pas voulu te couper dans ton élan, mais j'ai pas parlé du deuxième cas dont parle donc Charlie Hebdo dans son article du 7 mai 2025, GPA derrière l'éthique, la traite des utérus. Et je le lis maintenant, et tu t'en dis quelques mots après, oui. Et puis après, on fera une petite pause musicale, si Sandra veut intervenir aussi, d'accord. La justice française est rarement tendre avec les mères porteuses privées de leur enfant. Élise, une trentenaire française prof de fac, peut en témoigner. En 2020, cette militante LGBT met au monde un enfant pour le compte d'un couple d'hommes gays. Par altruisme et dans un projet de coparentalité, précise-t-elle. Là encore, le couple va peu à peu l'évincer après l'accouchement et la justice leur donnait raison. Les juges m'ont reconnu suffisamment mère pour verser chaque mois 200 euros de pension alimentaire, mais pas assez pour retenir le partage de la garde, dit-elle en colère. Donc ce cas d'Élise aussi, la SIAM se le connaît?
Oui. Élise, Alejandra et d'autres sont venues nous trouver parce qu'elles ont besoin de témoigner, elles ont besoin de parler, elles ont le courage de s'exposer ainsi, en fait, en témoignant, en racontant la réalité de ce qui leur est arrivé. On est en contact aussi avec d'autres mères porteuses qu'on essaie de soutenir par tout moyen. Alors, le cas d'Élise, il est similaire à celui d'Alejandra. Elle a été vraiment trompée avec une proposition totalement fictive, de coparentalité. Elle devait aussi élever cet enfant avec les deux gays avec lesquels elle avait convenu qu'il avait recruté comme mère porteuse à l'époque, et il n'a pas mis en avant le fait qu'il la recrutait comme mère porteuse. Il la recrutait dans un projet de coparentalité. Et puis par la suite, donc dès que l'enfant est né, ça s'est très 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 mal passé, parce que lors de l'accouchement, l'accouchement s'est mal déroulé. Et puis il a fallu utiliser une ventouse, mais le gay qui a imposé le fait d'être présent à l'accouchement a pris tout le monde de surprise en exigeant une césarienne immédiatement, parce que la mère porteuse, il n'en avait rien à faire, mais c'est l'enfant qui comptait. Et heureusement, le personnel médical qui était là n'a pas suivi ses caprices ou ses indications, heureusement. Mais par la suite, tout s'est compliqué. Ce projet de coparentalité s'est délité dans le temps. Au début, lui envoyait des photos, après les photos ont disparu, et après eux-mêmes ont déménagé successivement à plusieurs reprises. Et puis aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Eh bien, Élise en est à 4 ans, l'enfant a 4 ans, elle en est à 4 ans de procédure pour récupérer son enfant. Aujourd'hui, à quoi a-t-elle réussi à aboutir? Comme Alejandra, à quelques heures pitoyables de contact avec son enfant, à distance, donc de Paris, comme eux habitent à Nîmes, il faut qu'elle se dépasse à Nîmes pour 2 heures, où elle peut voir l'enfant dans une maison de maternité où elle est surveillée par les travailleurs sociaux, travailleuses sociales. Mais ce que nous apprennent tous ces cas, ce deuxième cas, il a été analysé par une juriste qui montre que ce qui s'est passé...
Vous avez choisi TSF Jazz.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo, mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa loves mambo, mama loves mambo. Having that fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo, mama loves mambo. Don't play the rumbo and don't play the samba, 'cause papa loves mambo tonight. He goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa loves mambo, mama loves mambo. Having that fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo, mama loves mambo. Samba, 'cause papa loves mambo tonight. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause papa loves mambo tonight. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause papa loves mambo tonight.
Le pianiste et chanteur Nat King Cole qui nous a fait danser, oh là là, qu'est-ce qui nous a fait danser sur ce Papa Loves Mambo, TSF Jazz. Voici le guitariste Kenny Burrell à présent en 1963 avec à ses côtés le percussionniste Ray Barreto et ce redoutable Midnight Blue.
Thank you.
écoutez TSF Jazz.
Thank you. Nostalgie avec vous, sous le soleil, partout en France et jusqu'à ce week-end, le soleil est là, avec Philippe Laville et Jocelyne Berroir. Également à suivre, Michael Field sur Nostalgie dans cette demi-heure de musique.
Moi, je n'aurais pas imaginé que je te reverrais. Tant d'années ont passé, je vois que tu n'as pas changé.
Mais ça va moins envie. Paris.
La radio des plus beaux classiques de la chanson française.
Écoutez.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tout. vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres, les autres t'aiment, t'es drôle de poème, viens avec moi. Que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres t'aiment, c'est drôle de poème et viens avec moi.
Chante France,
les plus belles chansons françaises.
Avec Pierre Garnier, Ce qui me va.
Un peu de moi, juste là, comme si j'avais attendu ça toute ma vie, sans le dire, sans jamais oser rêver de ce qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi moi, mais je suis là, et je ne veux plus jamais quitter cet endroit. Un peu de moi, un peu ma voix. Tant que dans le miroir je me reconnais, j'en ferai des erreurs et des déçus, ça je le sais. On voulait pas d'être moi, je cherche encore à savoir ce qui me va, ce qui me va. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir. Un peu de vous qui m'écoutez le soir.
De 30 minutes sans interruption.
Des plus belles chansons françaises.
Seulement sur Chant de France.
Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout du cœur, mais le dire quand même. Un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour
jour viendra, tu sauras toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur, que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a envoyé vers moi pour me réapprendre à aimer. Et attends, il laisse faire les jours, laisse le temps. Un jour viendra.